RFI Matin.
C'est l'une des affaires les plus mystérieuses de ces dernières décennies à Rome, l'affaire Emanuela Orlandi, du nom d'une jeune fille disparue il y a 36 ans. Elle était citoyenne du Vatican. Après de nombreux rebondissements, des tombes vont être fouillées au Vatican ce matin, car c'est peut-être là que reposent ses restes. On rejoint notre correspondant sur place, Eric Sénanque. Bonjour Eric.
Bonjour Arnaud. Dites-nous,
qui était Emanuela Orlandi ?
Eh bien, c'était une jeune fille sans histoire, née à Rome en janvier 1968, quatrième d'une famille de 5 enfants, et dont le père Ercole était un employé de la préfecture de la maison pontificale, l'organisme qui gère notamment l'emploi du temps du pape. Emanuela et sa famille vivaient à l'intérieur du Vatican. Le 22 juin 1983, elle se rend comme à son habitude à son cours de musique dans le centre de Rome. À la sortie, l'une de ses amies l'accompagnera à un arrêt de bus. C'est la dernière fois qu'on la verra. On croit d'abord à une fugue et ses parents sont persuadés qu'elle reviendra au domicile derrière les murs du Vatican, mais rien, aucune nouvelle. Des témoins l'auraient vue à bord d'une BMW pour une destination inconnue, mais l'on n'en sait pas plus. Le mystère de sa disparition s'épaissit peu à peu. Le 30 juin 83, une semaine après la disparition, des milliers d'affiches en noir et blanc sont placardées à Rome avec le visage souriant d'Emanuela et ce mot « scomparsa » disparu. L'affaire devient vraiment publique quand le 3 juillet, après la prière de l'Angélus, le pape Jean-Paul II partage sa préoccupation suite à la disparition de la jeune fille et lance un appel aux ravisseurs.
Au fil des années, les théories les plus folles ont circulé sur la disparition de cette jeune fille.
Oui, le cas Orlandi est d'abord lié à Ali Aksa, l'homme qui a tenté d'assassiner Jean-Paul II, place Saint-Pierre, 2 ans plus tôt. Interrogé en prison, Aksa explique qu'un groupe d'extrême droite turc aurait enlevé la jeune fille afin qu'elle serve de monnaie d'échange pour sa libération. Emanuela Orlandi vivrait, selon lui, dans un monastère de l'Est de l'Europe, une piste qui finit par faire fausse route. Autre hypothèse de sa disparition, le crime organisé. En 2005, lors d'une émission télévisée, un appel anonyme explique que pour retrouver la trace de la jeune fille, il faut aller fouiller la tombe d'Enrico de Pedis, le dernier chef de la bande de la Maliana, l'un des groupes les plus importants de la pègre à Rome. Dans la tombe de l'ancien boss se trouveraient les restes de la jeune fille. Elle est fouillée en 2012, mais l'on ne retrouve rien. Le cas Orlandi sera aussi lié à Mgr Paul Marcinkus, le sulfureux ancien président du IOR, la Banque Vaticane, qui avait flairé avec la mafia et des loges maçonniques. Dernier scénario rocambolesque et sordide à la fois, l'ancien prêtre exorciste du Vatican affirme qu'Emanuela Orlandi aurait été entraînée dans des orgies sexuelles au Vatican même, puis assassinée. Durant plus de 30 ans, cette disparition a donc fait, on le voit, l'objet de tous les fantasmes et scénarios les plus fous, dignes de films d'espionnage avec le parfum de scandale.
Eric, comment est-ce qu'on en arrive aujourd'hui à cette ouverture de tombe au Vatican ?
Eh bien, l'été dernier, l'avocate de la famille Orlandi a reçu un message intriguant avec cette phrase « Cherchez à l'endroit où pointe l'ange » et une photographie. On y voit 2 tombes, dont l'une avec un ange pointant le doigt vers le ciel. Ces tombes sont situées au cimetière teutonique du Vatican, situé à 2 pas de la coupole de la basilique Saint-Pierre. C'est là notamment qu'y sont enterrés les gardes suisses, morts lors du sac de Rome en 1527. Et c'est là que ce matin, les 2 pierres tombales vont donc être ouvertes. Si l'affaire n'a pas été enterrée, c'est grâce à la détermination de sa famille et de son frère en particulier. En ouvrant ces tombes, le Vatican admet qu'il puisse y avoir une responsabilité interne, commente Pietro Orlandi, le frère d'Emanuela. Tant que l'on n'a pas retrouvé son corps, elle est pour moi encore en vie, rappelle-t-il. L'ouverture des tombes aujourd'hui permettra de prélever de l'ADN, mais il faudra attendre jusqu'à 2 mois pour que celle-ci ne parle. Le voile sur cette affaire mystérieuse qui hante aussi bien la ville de Rome que le Vatican sera peut-être alors levé.
Merci à vous Eric Sénanque pour ce récit, le correspondant de RFI au Vatican.